marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Les leçons de l'histoire, cela ne saurait être autre chose que la conscience aussi exacte qu'il est possible de ce qui s'est passé durant le passé.
Comment l'Autriche vit-elle avec son passé ?
N'est-ce pas un portrait d'Hitler ?
Oui, bien sûr.
Il est accroché là depuis toujours ?
Oui, bien sûr.
Des dizaines d'années ?
Oui, bien sûr.
Faut regarder bien attentivement pour voir que c'est Hitler, tant qu'il est couvert de saleté.
Jusqu'à présent, personne ne s'en offusqua.
C'est un motif récurrent de l'écrivain Thomas Bernhardt. Le portrait de Hitler, encore fixé au mur, en Autriche, ou bien quand il a été décroché, laissant une tache claire à l'emplacement de laquelle on l'a fixé, un crucifix. Thomas Bernhardt. Il est mort il y a précisément 30 ans. Il était, à l'époque, l'auteur dramatique étranger le plus joué en France. Mais dans son pays, l'Autriche, il faisait l'objet de disputes passionnées. Beaucoup de contribuables demandaient pourquoi leur argent servait à mettre en scène ces pièces provocatrices dans le théâtre public. Il reste que son œuvre a contribué à faire prendre conscience au pays de la complexité de son passé. Quand Thomas Bernhardt est mort, en 1989, le président du pays se nommait Kurt Waldheim. Le parti chrétien conservateur l'avait choisi comme candidat en 1986 parce que la petite Autriche était fière de son titre d'ancien secrétaire général de l'ONU. Mais la campagne électorale avait révélé ses états de service de jeune nazi et sa présence au sein de la Wehrmacht à Salonique, au plus près des déportations de juifs et des massacres de partisans yougoslaves. Néanmoins, les Autrichiens avaient dû juger qu'il était attaqué injustement puisqu'ils l'avaient élu à 54%. Pendant toute la durée de son mandat, Waldheim a été largement boycotté à l'international, il n'a pas pu se représenter. Aux dernières présidentielles autrichiennes, le candidat d'extrême droite a manqué de peu l'élection. Et depuis les dernières législatives, le chancelier catholique conservateur conduit une coalition avec cette extrême droite. Alentour en Europe, il n'est pas persona non grata, il se sent même entouré de complicité. Quand on le questionne encore sur le passé, le chancelier Kurz peut toujours mettre en avant sa jeunesse. Il est né à l'instant même où Waldheim était élu. C'est un peu de la même manière qu'a réagi un dirigeant de l'extrême droite, Herbert Steinbaum, quand il a vu le documentaire sur l'affaire Waldheim que vient juste de sortir en Autriche la réalisatrice Ruth Beckermann. « J'ai appris beaucoup de choses », a-t-il commenté. L'effort de retour sur soi des années 1980 était-il destiné à ne pas durer ?
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de Jacques Le Rider, bonjour.
Bonjour.
Il y a 2 ans, vous étiez venu avec nous faire une émission sur ce grand témoin du contre-journalisme viennois qui est Karl Kraus, auquel vous consacrez maintenant un gros livre aux éditions du Seuil. C'est pas facile de vivre avec Karl Kraus, personnage non conformiste. Un peu plus tard, Thomas Bernhardt reprend d'une certaine manière ce flambeau. Thomas Bernhardt, on va consacrer la première partie de l'émission à l'écrivain Thomas Bernhardt, avant de parler du président, son contemporain. C'était un homme bourré de contradictions, qui vivait dans une ferme fortifiée qu'il avait achetée, mais aussi bien en Italie, où il aimait voyager, à Vienne, dont il aimait les fastes à certains égards.
Oui. Thomas Bernhardt est vraiment un écrivain formidable, un très très grand prosateur qui a commencé comme poète et qui a conservé cette flamme intense, ce lyrisme dans sa prose et qui a mis au point aussi une écriture théâtrale extrêmement originale et qui s'est fait une spécialité dans l'espace public autrichien de l'imprécation de la conscience malheureuse autrichienne, le questionnement consistant à gratter indéfiniment sur la plaie du passé austro-fasciste et nazi refoulé, qui explique En 1988, le succès fulminant
de fulminant, Place des Héros. Fulminant, vous avez dit. Fulminant, le succès de Place des Héros, dont on parlera dans un instant. Vous avez dit formidable aussi, parce que ça fait peur, ce qu'il dit. Le sens de formidable, c'est ça au premier motif. Oui. Ce qui fait peur.
C'est une prose extrêmement prenante, justement parce qu'elle vous empoigne, parce qu'elle vous agresse d'une certaine façon. Mais il n'y a pas seulement l'imprécation de l'Autriche, il y a aussi des thèmes métaphysiques, les relations entre l'homme et la femme, la vie et la mort, le suicide.
Vous voulez dire qu'il était contre l'humanité tout entière et qu'il disait non à tout, sauf au suicide à qui il disait oui.
Il y a chez lui une grande misanthropie, mais on sent que c'est une misanthropie de celui qui, en réalité, est en quête d'amour, en quête de compréhension, en quête d'écoute.
Oui, enfin, je ne sais pas si les Autrichiens qui entendaient un texte comme celui qui va être lu ici sentaient ceci au tout premier abord.
La lumière de la culture s'éteint en Autriche, je vous le dis. D'ici peu de temps, la stupidité qui règne déjà depuis si longtemps dans ce pays éteindra la lumière de la culture. Alors, il fera nuit en Autriche. Mais vous pouvez dire là-dessus ce que vous voulez. On ne vous entend pas. Et quand on vous entend, on se moque de vous. Dommage que je ne vive plus cela. Ce moment où les Autrichiens tâtonneront dans le noir parce que la lumière de leur culture se sera éteinte. Dommage que je ne puisse plus assister à cela, a-t-il dit.
Vous savez ce que disait Julien Gracq, qui va me manquer après ma mort, c'est le journal. Alors lui, là, il préfigure sa mort, va lui manquer le journal, parce qu'il lit frénétiquement la presse, mais pour la vomir aussitôt.
Oui, et ben là, nous retrouvons Karl Kraus, qui lui aussi a vituperé la presse avec une violence inouïe, et pourtant consacré plusieurs heures par jour à lire minutieusement la presse et à y relever toutes ces perles de sottises et de vilainies qu'il analysait ensuite dans sa revue La Torche ou Le Flambeau. Et Thomas Bernhardt, lui aussi, lisait... Mais il faut tout de même souligner qu'il avait une préférence marquée pour la presse étrangère. Par exemple, il considérait que la Neue Zürcher Zeitung de Zurich était le meilleur journal de langue allemande. Il avait raison, d'ailleurs, c'est un excellent journal. Et je crois qu'il ne faisait que survoler la presse autrichienne. Il lisait surtout la presse allemande, la presse helvétique et puis aussi la presse anglaise, française.
Souvent mieux reçu à l'étranger qu'en Autriche. Alors, vous parliez de cette pièce sur laquelle on va s'arrêter, qui date de la dernière année de la vie de Thomas Bernhardt. Nous sommes en 1988. C'est Place des Héros. Alors, quand Place des Héros était mise en scène en France, par exemple, au Théâtre de la Colline, par Lavelli, ça a été un triomphe, tandis que les premières représentations à Vienne ont été plus difficiles. Il faut dire que il imagine donc une famille qui, après l'Anschluss de 1938, revient en Autriche et qui place des héros là où il y a le palais impérial, là où Hitler a fait sa proclamation en 1938. Il imagine que ce couple voit partout des nazis derrière chaque fenêtre, dans chaque boutique, à la bibliothèque nationale, dans toutes les places qui entourent les héros. Le metteur en scène qui dirigeait le Burgtheater, donc un théâtre d'État de Vienne, Klaus Peymann.
Et soudainement, il me dit, là-haut, au troisième étage, c'est là que se joue ma pièce. Ça s'appelle Heldenplatz. Là habite cette famille juive revenue en Autriche après son immigration. Et elle voit que l'Autriche d'alors, en 1938, dans laquelle on criait « Heil Hitler et Sieg Heil », salut à la victoire, que cette Autriche n'a pas changé, mais que c'est au contraire aussi terrible qu'à cette époque. L'art doit parfois exagérer, doit dire que c'est un pays nazi, que ce sont tous des nazis et qu'ils n'attendent que la venue du nouvel Hitler. Quand on lit ça dans le journal, on se demande ce que c'est et donc on se dit que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai et Thomas Bernhard le sait, mais si vous voyez ça sur scène, mis en scène de manière convaincante, c'est énorme, c'est lumineux, c'est le secret de l'art.
Exagération, ce monologue. En Autriche, être juif signifie toujours être condamné à mort. Les gens peuvent écrire et raconter ce qu'ils veulent, la haine du juif est la nature la plus pure, absolument authentique de l'Autrichien. Aux juifs, ils ne s'habitueront plus jamais. Ce qu'écrivent les écrivains n'est rien en comparaison de la réalité. Ce qu'ils préféreraient, s'ils sont sincères, c'est exactement comme il y a 50 ans, nous gazer. Alors évidemment, quand c'est représenté en 88, à Vienne...
C'est évidemment un texte effrayant et il faut se représenter ce que c'est que l'année 1988 en Autriche, n'est-ce pas? C'est 2 ans après l'élection du président, après qu'il vient d'être inscrit sur la watchlist américaine, et c'est le cinquantenaire de l'Anschluss, de l'annexion de l'Autriche par les nazis et du grand discours de Hitler au balcon du Heldenplatz, justement, au balcon du palais impérial qui donne sur la place des héros, le Heldenplatz. Et en plus, Thomas Bernhard, qui est connu depuis de nombreuses années en Autriche pour être l'accusateur public, l'imprécateur par excellence de l'Autriche. Donc, cette accumulation de références symboliques, avec en plus Klaus Peymann, à l'époque directeur allemand du Burgtheater, qui n'a jamais fait mystère du fait qu'il est plutôt de l'avis de Thomas Bernhard et qu'il soutient son point de vue, c'était attendu et redouté par les Autrichiens comme la provocation suprême, le scandale le plus épouvantable qui pouvait éclabousser la culture autrichienne.
Les Autrichiens hostiles ont-ils été retenus par le fait que les télés étrangères étaient là très très nombreuses au moment de la première?
Oui, bien sûr, il y avait une sorte de narcissisme négatif d'être brusquement le centre du monde, mais il y avait en même temps, attisé par l'affaire Waldheim, qui avait placé le président de la République d'Autriche au premier rang de l'actualité politique internationale, un ressentiment formidable contre l'étranger, contre la côte est des États-Unis, contre le Congrès juif mondial, contre la presse française, contre tous ces gens qui donnaient l'impression de déverser quotidiennement toutes sortes de calomnies
Autrichiens hostiles, eux, ils déversent du fumier.
Alors les Autrichiens n'y sont pas allés de main morte. Le président de la République, Waldheim, est intervenu pour dire c'est un scandale, une insulte au peuple autrichien. Le ministre des Affaires étrangères, Alois Mock, est intervenu en disant c'est scandaleux qu'on finance un pareil spectacle avec les deniers publics. Et un groupe de contestataires d'extrême droite a fait déverser devant le Burgtheater le soir de la première un tombereau de fumier puant qui rendait tout le parvis du théâtre absolument infect.
Pause, avant qu'on le retrouve, l'affaire Waldheim que vous avez évoquée, qui est contemporaine de ces dernières années de Thomas Bernhard. Vous avez, comme beaucoup d'austrophiles, écoutez ou regardez le concert du 1er janvier, le concert traditionnel à Vienne qui a été retransmis à France Musique avec la présentation de François-Xavier Chimchak. Vous en avez vu de plus vif?
J'en ai vu de plus vifs. Celui de cette année ne m'a pas emballé, mais peut-être que c'est que j'étais de mauvaise humeur à ce moment-là. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce concert montre bien que autour du scandale de Heldenplatz, il y avait l'affrontement entre deux conceptions de l'éternelle Autriche. L'éternelle Autriche des valses de Strauss, innocente, sympathique, accueillante et touristique. Et puis l'éternelle Autriche de Thomas Bernhardt, hideuse et nazie jusqu'à la moelle.
La vie d'artiste de Johann Strauss, le Philharmonique de Vienne, est dirigé par Christian Thielmann.
Bonjour à tous, et oui, concert du Nouvel An en direct du Musikverein de Vienne avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne, dirigé cette année par Christian Thielmann. Je vous souhaite, nous vous souhaitons une excellente année 2019, pleine de joie et de musique sur France Musique. Künstlerleben, la vie d'artiste, opus 316 de Johann Strauss.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Oui, parfois vous avez eu l'impression ces jours derniers d'être sur France Musique. La marche de l'histoire, c'est bien sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Jacques Le Rider, sa dernière publication, un livre au seuil sur Karl Kraus, un Autrichien peut-être un peu austrophobe. On a parlé de Thomas Bernhardt, le grand auteur de théâtre, un Autrichien décidément austrophobe. Et les derniers jours de Thomas Bernhardt sont assombris par la présence depuis 1986 à la présidence de l'Autriche de Kurt Waldheim, dont il apparaît pendant la campagne électorale, notamment à cause d'une enquête menée par le magazine Profil, que pendant sa jeunesse, il avait appartenu à un syndicat étudiant nazi, qu'il avait appartenu à un club de cavalerie, juste un club de cavalerie, pas une unité régulière de la SA, et que, jeune lieutenant de la Wehrmacht à Salonique, qu'est-ce qu'il faisait là ?
Alors, il était officier de liaison, chargé du renseignement, et voyait passer en réalité toutes les dépêches importantes. Il était sans doute parmi les officiers de cette armée d'occupation du sud-est balkanique. Il était certainement un des mieux informés. Donc il a vu certainement tout ce qu'on pouvait savoir sur la déportation des Juifs de Salonique et sur la chasse aux partisans yougoslaves, dont on sait qu'elle a été particulièrement cruelle pendant l'occupation allemande.
Mais rien du tout, répond Kurt Waldheim en 1986. Si je me suis pas expliqué sur mon passé, j'ai pas donné beaucoup de précisions, c'est que ma vie internationale de secrétaire général de l'ONU, il avait été en poste de 72 à 81, ne m'a pas laissé suffisamment de temps, mais je dément, dit-il.
Vous avez appartenu à des organisations contrôlées par les nazis, c'est vrai ?
Non, je n'ai pas. Ça c'est déjà le mensonge. Je n'étais jamais membre d'une ou telle organisation politique du système nazi. C'est une invention et c'est pourquoi je me défends catégoriquement contre ces mensonges. Ce n'est pas vrai.
C'est curieux parce que, vous voyez, l'impression qu'on avait était que, bon, vous aviez appartenu, mais que vous n'aviez jamais commis d'action contre les droits de l'homme.
Certainement pas, n'est-ce pas ? Étant donné que ce n'est pas vrai, je suis très calme et je sais que le peuple autrichien me défend vigoureusement contre ces mensonges, contre cette campagne de diffamation.
TF1, une interview d'Emmanuel Vanier. Un autre moment, la ligne de défense. Vous allez nous faire comprendre ça, Jacques Le Rider. Pour Waldheim, il était obligé de faire ce qu'il a fait parce qu'il lui fallait sauvegarder sa famille.
Oui, ce qui lui a beaucoup nui, c'est de dire « je n'ai fait que mon devoir comme tous les autres qui portaient l'uniforme à cette époque ». Et on lui a reproché de parler beaucoup de son devoir de soldat à l'époque, mais de ne pas du tout parler de son devoir de mémoire au temps présent. Une conception du devoir envers la nation autrichienne qui pouvait apparaître comme très choquante. Et...
Oui, mais moi j'insistais sur le devoir vis-à-vis de sa famille. Un petit peu la même situation qu'ont connu les Alsaciens enrôlés dans la Wehrmacht. Si ils n'obtempéraient pas, c'était leur famille qui allait être victime.
C'est clair, le régime nazi était un régime de terreur qui frappait sans pitié tous ceux qui lui résistaient ou tentaient de le faire. Ça ne fait aucun doute. Et donc, je crois que le malentendu sur lequel Waldheim a chuté, c'est qu'il a cru qu'on lui reprochait d'avoir été impliqué dans des événements historiques. Mais non, c'est pas ça qu'on lui reprochait. Ce qu'on lui reprochait, c'était de ne pas dire la vérité et de ne pas porter un jugement clair sur ce passé historique auquel il avait participé.
Chuté, oui, d'accord, mais enfin, il va être élu. Parce que un mot de ce qui s'est passé pendant la campagne électorale. Il est le candidat du Parti populaire, le Parti chrétien conservateur, Alois Mock, l'un de ses dirigeants qu'on va entendre, et d'ailleurs un ami personnel.
Nous avons des preuves, ça veut dire des certificats déposés par un notaire qui montrent que cette campagne a été montée par le Parti socialiste et préparée depuis un an. Par exemple, on a montré une photo qui doit montrer Waldheim parmi les SA. Et maintenant, il y a une déposition chez un notaire d'un homme qui disait « ce n'est pas Waldheim, c'est moi ».
Alors, campagne montée par le PS, le Parti Social-Démocrate est alors au pouvoir, le chancelier Sinovats dit « pas du tout, c'est pas une affaire qui nous intéresse au premier chef ».
J'ai décidé d'organiser cette conférence de presse au dernier moment parce que, et je le dis ouvertement, ça suffit maintenant. Croyez-moi, le Parti Socialiste se moque bien de savoir si Waldheim faisait partie de la SA ou non. Nous prenons acte qu'il n'a lui-même jamais appartenu à la SA et que seul son cheval en faisait partie.
Toujours cette histoire du club de cavalerie plutôt que de l'unité militaire, sur laquelle plaisante le chancelier socialiste.
Oui, tout cela nous apparaît rétrospectivement comme d'un mauvais goût atroce, d'une maladresse sans borne. Et il est certain que l'affaire Waldheim s'est enlisée dans des profondeurs de bêtises énormes à cause du fait qu'elle a été traitée de manière politicienne. Indéniablement, le Parti socialiste a voulu démolir le candidat de la droite conservatrice Kurt Waldheim. Et ça, c'est indéniable, quoi qu'affirme le chancelier Sinovats. C'est d'ailleurs Thomas Bernhard dans Heldenplatz fulmine contre les socialistes autant que contre les conservateurs.
Les socialistes n'ont pas placé l'enjeu où il le fallait.
Mais non, pas du tout. L'enjeu n'était pas de démolir ou de défendre Kurt Waldheim. L'enjeu, c'était d'arriver à une conscience claire du rôle de l'Autriche à l'époque du Troisième Reich et à faire ce travail de mémoire qui s'impose à tous les peuples européens à propos de la Deuxième Guerre mondiale.
Une des ambiguïtés de ce moment assez terrible, c'est que non seulement a été dénoncée une manipulation par les socialistes, mais un peu secrètement, discrètement, une manipulation par les intérêts juifs mondiaux que secrétaire général de l'ONU, en soutenant les Palestiniens, Kurt Waldheim aurait contrecarré. Vous nous parliez tout à l'heure de la côte est des États-Unis. C'est la manière qu'on a à ce moment-là, en Autriche, souvent, de désigner les juifs.
À cette époque-là, on voit le Congrès juif mondial qui intervient de façon extrêmement active et militante auprès de la classe politique américaine et de l'opinion publique américaine pour obtenir l'inscription de Kurt Waldheim sur la watch list qui le bannit des États-Unis. Et en contrepartie, les Autrichiens, ou en tout cas les partisans de Waldheim en Autriche, conçoivent une espèce de rancune, de ressentiment contre cette opinion qu'ils jugent influencée par le lobby juif international. Mais à l'époque, évidemment, on n'ose pas parler ouvertement antisémite. On est antisémite toujours dans le subtexte, par allusion subtile, par entre les lignes. Et donc, un des déguisements de l'antisémitisme consiste à parler, à vituperer la côte est des États-Unis à l'époque.
D'accord. Il ne va pas pouvoir s'y rendre quand il est élu, avec 54% des voix. Rappelons-le, il est persona non grata aux États-Unis et dans bien des endroits. Enfin, il va voir Saddam Hussein à Bagdad, et puis le pape Jean-Paul II au Vatican. Et puis, il peut recevoir chez lui, là, juste un écho très bref avec cet extrait de l'ouverture de Fidelio du festival de Salzbourg en Autriche, donc en 1990, où Kurt Waldheim va déjeuner avec un convive inattendu. Oui, le convive inattendu, c'est Václav Havel, alors président tchécoslovaque, enfin, qui déclare quand même « Celui qui revoit l'histoire et sa biographie cause beaucoup de dommages ». Il y a eu un effort, ensuite, après que Waldheim ne s'est pas représenté, dans les années qui ont suivi, pour essayer de mieux comprendre ce qui s'était passé précisément en Autriche. Par exemple, il y aura à Vienne une grande exposition sur la Wehrmacht.
Alors,
et tout le crime qu'elle a pu commettre en 95-96.
C'est la question la plus controversée. Est-ce que cette affaire Waldheim, est-ce que ce scandale Thomas Bernhard, est-ce que les combats menés par la jeune Autriche contre le parti de Jörg Haider, l'extrême droite de Haider, qui venait de prendre en main son parti en 1986, lui aussi, décidément une année chargée. Est-ce que tout cela a eu un effet de catharsis et de clarification? Beaucoup le contestent et disent non. Ça n'a fait que remuer les vieux breuvages, le vieux cloaque, mais ça ne l'a pas assaini. Et la question est de savoir si l'Autriche du chancelier Kurz n'est pas simplement une Autriche de l'oubli heureux et bienheureux qui...
Le chancelier Kurz, le chancelier actuel, coalition Parti chrétien conservateur extrême droite, âge du chancelier? Il a quel âge, le chancelier?
Il est né en 1986, c'est donc un des plus jeunes chefs d'État du monde, en tout cas le plus jeune en exercice à l'intérieur de l'Union européenne. D'ailleurs, une personnalité brillante et dynamique, mais qui a la grâce d'être si jeune que personne ne songe à lui faire porter le poids de ce passé qui accablait Kurt Waldheim.
Merci à vous, Karl Kraus, je vous appelle Karl Kraus, Jacques Le Rider qui vient de publier une biographie de Karl Kraus aux éditions du Seuil, l'émission réalisée par Audrey Ripouille avec Patrick Henri Adelcaïto pour la préparation.